Ok. Alors, du coup, quand tu dis, là, en ce moment, tu es en France, on
Ouais.
va revenir un petit peu dessus. Le fait que tu sois en France aujourd'hui, quel outil précisément tu mets en place? Donc, tu m'as parlé, par exemple, de Zoom, de WhatsApp. Comment est-ce que tu t'organises finalement? Est-ce que finalement, tu as, j'imagine que non, mais est-ce que finalement, tu as un peu on va dire, la même journée, le même type de journée que tu as quand tu es au Togo? Et comment est-ce que tu t'organises finalement pour manager à distance? Parce que comme tu l'as dit, tu as passé 6 mois en France l'année dernière. Et quand tu es arrivé, il a fallu que tu
Ouais.
fasses un coup de balai, entre guillemets, parce que peut-être que voilà, il y a des choses qui ont changé, tu n'étais pas là pour manager. Comment on fait finalement dans des situations comme ça? Toi, tu es obligé d'être en France pour des raisons familiales pendant 2, 3 mois. Comment est-ce que tu fais pour vraiment réussir à gérer tout ton business à distance comme ça? Même si c'est pendant 2, 3 mois, comment on fait?
Ouais, en fait, donc oui, on a des réunions hebdomadaires donc sur Zoom avec l'équipe production, avec l'équipe marketing, avec l'équipe commerciale. Donc on a des réunions hebdomadaires. Il y a des documents, il y a des livrables qui doivent m'envoyer chaque fin de journée par rapport à la production, par rapport à la vente, par rapport au planning qui est là, qui n'est pas là. Donc j'ai 28 employés. Donc mais mes journées sont pas pareilles. Mes journées sont pas pareilles, je suis pas dans le même cadre. C'est difficile pour moi de travailler à la maison. À la maison, quand je suis au Togo, je me lève, je suis au bureau du matin jusqu'au soir. C'est totalement différent. Donc là, c'est vraiment une petite pause. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que là-bas, j'ai une équipe formidable. Je sais pas, peut-être vous en avez déjà parlé dans d'autres émissions. Le fait que les gens se découragent pour retourner au pays. On va vous dire, ah, ils vont te voler. Ce sont des paresseux. Gnagnagna, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Il y a des jeunes très dynamiques. Vous allez à l'université, vous faites la pêche seulement. Ils sont là, ils ont le dynamisme. Mais c'est à vous. S'ils vous volent, s'ils font ça, c'est que vous êtes un mauvais manager et que vous ne savez pas, vous n'avez pas su instaurer un climat d'entreprise. Votre entreprise, c'est votre entreprise. Vous mettez vos règles. C'est comme ça. Donc moi, j'ai appris ça aux États-Unis, que ce soit la flexibilité dans les tâches, dans les horaires, et surtout comment dire, récompenser l'effort avec des incentives. Voilà. Donc j'ai une équipe aujourd'hui, après 4 ans quand même, qui tourne. Elle connaît son travail. Je leur fais confiance. C'est très très important. Le contrôle n'exclut pas. Je contrôle, mais je leur fais confiance. Et on tourne. Et ce qui est intéressant avec moi quand même, c'est que mon produit, je le vends en gros. Donc, c'est pas un business de détail. J'ai peut-être au Togo, on va dire, 4 grandes commerçantes qui achètent. Donc, c'est des grosses commandes qui partent d'un coup avec une rentrée. C'est pas 100 € d'un côté, 200 € de l'autre côté. Donc sur un mois, on a peut-être 4 grosses rentrées avec 4 grosses livraisons. Donc c'est facile à gérer en termes d'argent, vous voyez? Et après on a des mécanismes, après on a des protocoles, on a des processus. Et c'est là que mon expérience de chef de projet m'a beaucoup aidé à faire tout ça au carré. Et je dis aux jeunes, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, allez bosser pour quelqu'un. Ce n'est pas une honte. Tu es stagiaire, tu es apprenti, tu fais les photocopies. Tu vas voir ce qui se passe dans l'entreprise et tu vas apprendre. Tu vas apprendre.
Hyper intéressant.
Ouais, super intéressant. Alors moi j'ai une question, c'est pourquoi vous n'avez pas voulu vendre en détail, par exemple?
Bon, en fait, c'est pas que je n'ai pas voulu vendre au détail. On ne peut pas vendre au détail en gros en même temps, sinon on va faire un peu de la concurrence à nos grossistes, semi-grossistes, et puis ça va être compliqué à gérer. Vous vous rendez compte? On parle de trucs de 25 francs. 25 francs CFA, j'allais le vendre. Ça veut dire que je dois avoir une seule dans toute la ville de Lomé, c'est pas possible. Il faudrait plein de boutiques. Donc moi, j'ai préféré me concentrer sur la production. Et c'est vrai qu'à Lomé, au Togo, on s'occupe aussi. On distribue aux grossistes et elle vend-il aux semi-grossistes, etc. C'est beaucoup plus facile. Sinon, vous devez avoir vos camions, vos chauffeurs, vos commerciaux, vos tricycles. Donc moi, maintenant, je veux me concentrer sur la production pour offrir après d'autres produits, parce que sinon, on ne peut pas. Vous devez avoir beaucoup plus d'employés, beaucoup plus de ressources, de véhicules, de logistique. J'ai pas encore ces moyens. Par contre, c'est ce que je fais quand je vends au Burkina ou quand je vends dans d'autres pays. Donc là aussi, c'est pareil. Moi, je fais la production et ils gèrent tout le reste. Non, je peux pas rendre au détail. C'était pas dans le business model, quoi.
Okay.
Et du coup, la question qui vient juste après de là-bas, c'est bah finalement quand on décide de vendre aux grossistes comme ça, parce que là dernièrement, d'ailleurs, j'étais très fière parce que t'as réussi à rentrer tes produits chez Auchan, donc très très bonne nouvelle. Et mais du coup, quand on vend comme ça des produits qui coûtent 25 francs l'unité, je comprends la stratégie, mais combien, par exemple, pour toi, à partir de quel moment est-ce que tu break-even finalement, à partir de quel moment tu deviens rentable?
Bah, très bonne question. Bah, tu vois, j'ai commencé en novembre 2016. Bon, disons la vente en août 2017. Ouais. Et c'est ce mois-ci, février 2021, où pour la première fois justement, je suis arrivé à l'équilibre. Donc 4 ans, un peu moins de 4 ans, 3 ans et demi, parce que c'est du produit de masse, c'est de petits produits, et donc il faut des quantités énormes. Il faut des quantités énormes pour vraiment rentabiliser et amortir, sans parler des amortissements du matériel. Enfin bon, il faut vraiment être patient, il faut vraiment croire au produit, et c'est pour ça que je dis franchement, je me suis remis en cause plusieurs fois par rapport à ça, parce que c'est beaucoup beaucoup d'argent, de sacrifice, de patience. Il faut y croire. Et pourquoi j'ai continué, c'est parce que j'ai toujours eu un retour satisfaisant de mes clients, de mes clientes, et surtout de nos mamans. Vous savez, en Afrique, la nourriture, la maman qui prépare, vous pouvez dire que c'est local, que c'est bio, que c'est naturel, que c'est équitable. Si c'est pas bon pour sa sauce, maman qui te prépare, bon, les sauces de chez nous, les sauces feuilles, les sauces graines ou les tièpes, et tu dis, wow, c'est bon, que ça me rappelle les sauces de ma grand-mère, quoi. Là, tu es content. Et j'ai vraiment, il y a très peu de retours où les gens ne sont pas contents, où ils disent ça. Souvent, c'est parce qu'ils l'ont mal utilisé ou je ne sais pas. Donc, je suis très content et c'est ça qui me fait poursuivre l'aventure.
Ok. Hyper intéressant. Alors, du coup, on va commencer un peu à prendre les questions parce que, du coup, il y a quelques questions quand on est en train de discuter. Alors, je vais commencer par le bas. Alors, donc, il y a une question de Kémit qui dit, j'ai une question, s'il vous plaît, AfriCube est fabriqué à base de quoi? Donc, Kémit arrive en retard, il me semble. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas entendu, mais au départ, tu avais
spécifié. Oui, bon. Tout à fait. Alors, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture africaine. Ça, c'est très important. Et quand j'ai fait la recette, je voulais être sûr d'avoir tous les ingrédients là. Et quand je dis local, c'est pas forcément Togo. Même si ça vient les oignons viennent du Burkina ou du Niger, c'est panafricain. Vous voyez? Ça n'a pas d'importance. Donc, tous les produits sont locaux. Donc, il y a du gingembre, il y a du poivre noir, il y a de l'oignon, il y a de la muscade, africaine. Il y a notre moutarde traditionnelle qu'on appelle chez nous Afiti, qu'on appelle Soumbala au Mali, où on était tout au Sénégal. Donc ça, c'était très important. Il y a une base un peu de soja torréfié, et un peu de sucre et un peu de sel. Voilà.
D'accord. Okay. Très clair. Alors du coup, il y a Josué qui dit, mis à part l'argumentaire de la qualité du produit AfriCube, quelle est globalement la politique de différenciation d'AfriCube par rapport à la concurrence?
C'est très simple. C'est le seul bouillon naturel dans toute l'Afrique, sur tout le continent. Vous pouvez chercher dans tous les pays. Je parle pas des mélanges d'épices que nos mamans font au marché. Là, je parle d'un produit emballé, d'un produit, d'un bouillon, disons. C'est le seul qui est naturel. C'est pas le seul qui est africain, mais c'est le seul qui est naturel sans glutamate. C'est comme si quelqu'un faisait une cigarette sans nicotine. Ça n'existe pas. Donc là, c'est le seul qui est naturel. Donc, c'est la grosse différence. Voilà.
Bravo pour ça, en tout cas.
Ouais, bravo pour ça. Après, je comprends du coup la difficulté aussi derrière d'avoir à sensibiliser finalement sur une population qui n'a pas forcément l'habitude, qui n'a pas forcément eu l'habitude à se sensibiliser sur ce genre de problématiques. Donc là, il y a un gros travail de mentalité et de conscience à faire, en fait.
Tout ça, ça vient. Et c'est là que nos gouvernements doivent nous aider. C'est ouais, là que les gouvernements, c'est on parle de santé publique, on parle de santé publique, et ça après on parle de création d'emplois, on parle de valorisation des denrées, on parle de beaucoup de choses. C'est le positif partout. Donc nous, avec nos petits moyens, on sensibilise, on va à la radio, on va dans les villages, on fait les choses. Vous voyez, mais quand ça vient de l'autorité, c'est encore mieux. Il y a des campagnes, comme il y a des campagnes qui se font ici. Bah, il y a des campagnes qui doivent se faire aussi là-bas. Donc oui, c'est très difficile de sensibiliser, mais les gens sont toujours à l'écoute. Et encore une fois, lorsqu'on leur dit, il suffit de dire le prix, c'est 25 francs, on vous écoute. Vous voyez, c'est 25 francs, ils ouvrent, ils sentent, voilà, il n'y a pas de souci.
D'accord. Okay. Mmh. Alors du coup, on a donc Mini MJ qui dit comment la population a accueilli tes produits au départ. Comment est-ce qu'ils ont accueilli tes produits au tout départ, au tout début?
Oui, ça a été…
Parce que du coup, j'imagine que tu as fait une première version et que bah, finalement, au fur du temps, tu as dû l'améliorer, etc.
Pour arriver
à ce que tu as aujourd'hui.
Tout à fait, ça a évolué avec le temps. Bon, vous, à la fin aussi, c'est de la nourriture. Et quand vous ne mettez pas de produits chimiques, c'est les goûts. Les goûts, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Et puis, vous voyez, quand vous mangez du cube tous les jours depuis votre petite enfance, votre palais est habitué à quelque chose, puisque il y a le manque. Et quand vous enlevez ce cube, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la sauce, vous n'allez pas sentir le goût. Et vous allez dire, ah, ça manque ça, c'est pas ceci. Il faut attendre une semaine, deux semaines pour que votre palais se réhabitue. Vous voyez? Donc, au début, ça a été très, 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 très difficile. Et en plus, les gens, bon, ça, c'est aliénation, hein. Dès qu'ils savent que c'est togolais, voilà, ils commencent à regarder tous les ingrédients. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est bio? Dans quelles conditions ça a été fabriqué? Est-ce que c'est certifié? Toutes les questions qu'ils n'ont pas posées pour ma vie depuis 50 ans, c'est là ils vont décortiquer pour savoir si l'usine est propre. Ou il y a même une cliente qui voulait venir dans l'usine voir si c'était propre. Je dis, mais à partir d'un moment, il faut faire… voilà. Mais après, il y a tout cet élément psychologique. On a fait un test très intéressant à Lomé. On a travaillé avec une dame en face. Mm-hmm. On était en étude et on l'a sensibilisée sur le produit. Elle a commencé à faire ses sauces, sauce tomate, à frire le poisson avec, faire du riz au gras avec. Donc, elle travaillait là où il y a des bureaux. Donc, ce sont des gens qui viennent manger ses spaghettis tous les midis, des avocats, des étudiants. Et on lui a dit, OK, enlève magie, là, tu vas faire tout avec Africube. C'est ce qu'elle a fait. Donc, on a suivi ça pendant une semaine. À part quelques gens qui rajoutaient du sel, parce qu'Africube, il y a trois fois moins de sel que dans un cube chimique, personne n'a rien dit et les gens, ils ont mangé tranquillement. On a attendu un mois. On lui a dit cette fois-ci, quand tu sers les gens, tu leur dis que tu n'as pas mis de cube, que tu as assaisonné seulement avec des épices. On n'a pas parlé d'Africube, ça n'existait pas. Mmh. Et là, croyez-moi, on a eu tous les retours du monde. Ah, je savais, c'est pas pimenté, c'est pas assaisonné, ça n'a pas de goût. Ah, il faut pas, voilà. Donc, vous voyez, il y a l'effet psychologique et c'est pour ça que même, bon, quand on prépare une sauce, bon, je ne vais pas dire une femme, n'importe qui prépare une sauce, s'il n'y a pas, à la fin, on met le cube de manière comme ça, s'il n'y a pas le cube, on ne peut pas, non, on ne va pas servir la sauce, on va envoyer quelqu'un, va chercher le cube, on ne va même pas goûter. C'est un effet psychologique. Et ça, si vous pouvez faire le test avec quelqu'un qui est habitué au cube, de lui faire son plat préféré, sans mettre, en mettant un flic cube et en rajoutant d'autres choses, sans rien lui dire, et attendez de voir s'il va dire quelque chose. Et ça, c'est très intéressant, c'est psychologique. Quoi.
Donc, en fait, ce que j'entends également, là, qui est intéressant, c'est que tu es en train de dire que, enfin, limite, les Africains sont plus durs envers les produits locaux. Oui. Les entrepreneurs locaux. C'est-à-dire qu'il y a une certaine méfiance qui est…
Okay. Alors, en fait, tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Voilà. Ouais. En gros, c'est ça. Tout ce qui vient de l'extérieur. Si j'avais dit que Africube vient des États-Unis, c'est le nouveau bouillon à New York, j'aurais même pas besoin de sensibiliser quoi que ce soit. Et j'aurais pu mettre ce que je veux à l'intérieur. Mais dès que ça vient de là, voilà. Il y a la méfiance. On pose toutes les questions du monde. Et donc, c'est à nous aussi. Alors, les gens, bon, voilà, OK. Mais c'est à nous aussi, entrepreneurs. On va pas se plaindre. Et c'est à nous, on va faire ce travail, justement, pour leur donner des garanties de qualité par rapport à notre produit. Déjà, avec l'emballage, avec les certifications qu'il faut, le professionnalisme. pour leur montrer que voilà AfriCube d'un côté et voilà votre cube rouge et orange de l'autre. Quelle est la différence? Regardez les ingrédients. Vous voyez? Donc, oui, c'est très, très difficile. Les populations voient toujours ce qui est, qui arrive de l'extérieur comme meilleur.
Mmh. Ok.
Alors, du coup, il y a Abou Cissé qui demande. Alors, j'ai une autre question. Les autres cubes magiques que nous consommons, quels sont les dangers?
Bah, je vais lui dire Google it. C'est-à-dire que si tu tapes cube magie, d'abord, il y a leur page et après, il n'y a que des trucs négatifs.
Ouais.
Alors déjà, le cube magie, il faut savoir que, bon, et tous les cubes, hein, ce n'est pas forcément eux, hein, tout, il y a une vingtaine, une trentaine de marques. 65% minimum, c'est du sel. Et c'est pas de guerre, c'est du sel blanchi, raffiné, industriel. Et je sais que, par exemple, il y a une loi qui a été passée au Sénégal il n'y a pas longtemps qui oblige les industriels à ne pas dépasser les 65% de sel. C'est sorti l'année dernière. Donc, imaginez avant, si on pose une limite à 65%, avant, ils en mettaient combien? Le sel, voilà. Donc, quand on sait que donc un cube, c'est environ 10 ou 12 grammes. Donc, si on met déjà 65%, c'est déjà 6, 7 grammes. Pourtant, on dit que un adulte doit consommer 5 grammes par jour, tout compris, sachant qu'il y a déjà du sel dans les aliments, etc. Donc, quand on fait un tchep et on met 3-4 jumbo dedans, c'est déjà, voilà. Donc, le sel, c'est très mauvais. Ensuite, il n'y a que des produits synthétiques. C'est-à-dire qu'il y a les arômes qui donnent du goût. Donc, ce sont des arômes synthétiques qui ont été faits dans les laboratoires qui donnent le goût poulet, ail, tout ce qu'on veut. Il y a des colorants, il y a des conservateurs. Il suffit de lire, vous n'allez rien comprendre. Et il y a ce fameux glutamate qui vous donne justement envie, c'est un, je sais pas comment appeler ça, c'est une drogue, c'est-à-dire le glutamate ouvre les papilles. Mm-hmm. Donc, dès que vous mangez ça, c'est bon, vous avez envie de manger, vous voyez, et ça éteint le mécanisme de satiété. C'est-à-dire que le cerveau n'arrive plus à savoir si on est rassasié ou pas. Donc, soit l'assiette est finie, soit vous avez le deuxième mécanisme du corps qui fait que vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre. Normalement, ça ne devrait pas arriver là parce que ça éteint le mécanisme. Et il y a d'autres produits après qui font que vous gardez les papilles ouvertes et deux heures après, à nos mamans, ils nous disaient « Mais si tu manges McDo, deux heures après, tu vas encore avoir faim. » Pourtant, quand tu as mangé McDo, ton ventre est gonflé. Mais deux heures après, effectivement, tu as faim. C'est à cause d'un autre produit. Moi, j'ai visité une usine du cube. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'organique. Ce sont des produits chimiques qui sont mélangés dans des tubes, dans des fûts, et vous allez voir qu'il n'y a rien d'organique. Ce sont des produits chimiques. Donc, croyez-moi, quand vous regardez un emballage et que vous ne comprenez pas, ça veut dire que ce n'est pas bon.
Très intéressant. Du coup, c'était peut-être aussi pour toi, on va dire, la volonté de démarquer en termes de packaging. Même, enfin, du coup, parce que toi, c'est, on va dire, c'est de la... Comment dire ça, c'est de la poudre. Enfin, c'est de la poudre.
C'est de la poudre.
Du coup, on n'est pas sur finalement cet aspect compact comme le cube magie. C'est aussi pour toi aussi peut-être une idée pour te démarquer et ne pas être associé directement au cube magie, etc.
Bon, il y avait plusieurs raisons. Déjà, un cube, c'est de la poudre qui est agglomérée. À la fin, c'est de la poudre qu'on compacte. Et pour la compacter, il faut au moins 15% d'un agent collant. Généralement, c'est de l'amidon. Donc, il y a 15% aussi qui ne servent à rien, juste à coller de la poudre chimique. Donc, moi, je voulais un produit qui soit concentré avec des ingrédients qui servent à quelque chose. Donc, je voulais pas le faire en cube. En plus, ça coûte un peu plus cher. Les machines sont différentes. Voilà, donc j'ai décidé de le faire en poudre et surtout qu'AfriCube, comme c'est naturel, vous le mettez directement dans votre assiette aussi. Donc là, si le cube, soit c'est trop dur et après vous devez l'écraser avec la cuillère, soit c'est trop mou et vous en mettez partout le doigt. Là, vous coupez, voilà, comme un assaisonnement dans votre riz au gras, dans votre vinaigrette, dans vos spaghettis. Donc, il y avait plusieurs éléments qui m'ont fait choisir ce format. Et de toute façon, c'est un format. Bon, moi, j'ai rien inventé. Hein. Ça vient au Sénégal, les Adja, les Kadi, les Mani. Bon, c'est la même société. C'est la même société. Ils ont commencé avec ça, et c'est quelque chose qui arrive au Togo. Et beaucoup les gens, ils aiment aussi ce format. Voilà. Donc oui, et en magasin, on se démarque, pas seulement par le format, mais par nos couleurs, par notre identité visuelle. Ça, c'était super important.
D'accord. Alors, il y a beaucoup de personnes qui demandent où est-ce qu'on peut se procurer tes produits en France. Donc, je sais que tu es présent en France. Je t'avais dit une fois que j'avais essayé de chercher. Donc, déjà, ouais. Sur Instagram notamment et sur Facebook et sur YouTube. Donc, les produits d'Africube sont disponibles chez Auchan à Mantes-la-Jolie, c'est ça, pour le moment?
Alors, oui. Pour l'instant, il y a un Auchan à Mantes-la-Jolie. Donc, vous avez ce pack de 25 sticks à 2,76 €. Donc, ça fait pratiquement 10 centimes le stick. C'est super. Ouais. Très, très bon prix. Mais c'est juste à Mantes-la-Jolie pour l'instant. Et ensuite, je pense que le prochain, ce sera la Défense. Le problème de la pandémie nous bloque un peu. D'accord. Mais sinon, vous pouvez acheter votre Africube avec la livraison incluse sur africube.fr. Donc,
d'accord. OK.
Partout. À Bordeaux, à Nantes, partout en France, africube.fr. Vous achetez, c'est un site sécurisé, il n'y a aucun souci, il y a différents formats, vous achetez, la livraison est incluse, africube.fr. Sinon, dans la région parisienne, bien sûr, à Château Rouge, et quelques boutiques dans le 95 et dans le 78. Voilà, donc, mais le africube.fr, voilà, pour tous ceux qui sont en France.
Ok, donc pour résumer, donc africube.fr pour la livraison en ligne, donc vous pouvez commander si vous habitez en France.
Pour la France. D'accord. Pour le reste, c'est africube.tg. Je vois Côte d'Ivoire, vous allez sur africube.tg, vous allez avoir le contact d'une charmante dame qui vend Africube en Côte d'Ivoire, et on le vend aussi au Burkina, on le vend au Bénin, au Togo bien sûr, et aux États-Unis aussi, à New York.
Ok, bah super, super. Et du coup, étant donné que tu me parles de champs et tu me parles de la Défense, alors la question du coup, c'est finalement comment on fait pour si on a par exemple un produit comme le tien, peut-être pas un cube, mais voilà un produit qui peut éventuellement se vendre en supermarché. Comment est-ce qu'on fait finalement? Quel est le process pour entrer dans des boîtes aussi grandes, dans des chaînes aussi grandes? Comment on fait? C'est quoi le process?
Oui, je pourrais même pas t'expliquer, tout simplement parce que c'est pas moi qui ai fait entrer Africube, mais c'est un distributeur qui avait déjà son produit. Un frère sénégalais qui fait du jus de bissap en Tetra Pak, ça s'appelle Balante. Voilà. Il est déjà dans les carrefours, dans les Auchan. Et il a eu cette idée de proposer, puisqu'il a travaillé avec eux un certain nombre d'années, ils leur font confiance, de proposer un rayon Afrique. De la même manière qu'il y a un rayon Maghreb, Asie, Italie, mais nos produits, entre guillemets, on doit les chercher droite-gauche. Donc, on lui a dit, OK, on va te donner un rayon Afrique. Propose-nous des produits partout en Afrique de qualité qui respectent les normes d'emballage, d'étiquetage, phytosanitaire, etc. Et donc, c'est lui, on s'est vu, il a aimé mon produit. Et c'est pour ça même, moi, j'avais pas cet emballage avant. Hein, c'est pour ça que je l'ai fait, juste pour ça. Et c'est lui qui m'a fait rentrer. Donc lui, il est mon distributeur dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, voilà. Parce que moi, je suis concentré en Afrique. Et mon projet, c'est vraiment en Afrique, et je peux pas être les deux en même temps. Je peux pas être là pour booster le produit. Bon, je suis là, mais à mi-temps, on va dire même pas. Donc il faut qu'il y a d'autres personnes ici qui s'occupent d'Afrique de manière indépendante, voilà.
Ok. Très intéressant. En fait, tu parles d'Iboudiata, d'ailleurs, qu'on va recevoir le 21 mars. Ouais. Le 21 mars, on va recevoir Iboudiata qui va on va creuser un petit peu sur le sujet, savoir comment on fait finalement pour, proposer ces produits en supermarché, comme toi, tu l'as fait. Donc, c'est très bien. Alors, du coup, on va continuer les questions. Donc là, est-il rentable? Est-ce que tu es rentable? Donc, il avait répondu oui. Donc, tu fais oui, 2020.
4 ans. Et encore, on ne sait pas ce qui va arriver le mois prochain. Donc, Inch'Allah, cette année, mais c'est le but. Là, c'est vraiment l'objectif d'être en équilibre cette année.
Alors, du coup, on a Abou Cissé qui dit partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît, pour sauver la vie de nos parents en Afrique.
C'est important. Moi, pour partager une anecdote, hein, quand je suis vraiment retourné vivre au pays, ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'état de santé non seulement de nos parents, mais de la jeune génération. Vous allez croiser des gens de 25 ans, une jeune fille de 25 ans qui était dans mon équipe, qui me dit qu'elle a hypertension. Je comprenais pas. Moi, dans ma tête, hypertension, tu dépasses un certain âge. Ils ne sont pas obèses ni rien, ils ont de l'hypertension. parce qu'on est gavé de sel. Le diabète, j'en parle même pas, parce qu'on est gavé de sucre avec les brasseries qu'on a, avec des Coca, des Fanta hyper sucrés, voilà. Donc il y a les tout ça, ça nous pose des problèmes cardiovasculaires. Et vous connaissez ces histoires. Il est passé se coucher, il a eu mal à la tête, on l'a amené à l'hôpital, il est décédé, et voilà. Et c'est juste des AVC à répétition. Les gens sont en mauvaise santé. On ne mange pas bio. En Afrique, c'est pas vrai du tout. Si vous voyez le panier de la ménagère, ce sont que des produits importés, des plaies congelées qui viennent de je sais pas où, qui ne suivent pas la chaîne du froid parce qu'ils sont moins chers que nos poulets locaux. Les tilapias qui viennent de des fermes chinoises qui sont bourrées de métaux qui sont alimentés aux farines animales. Vous avez les tomates concentrées. Quelquefois même sans tomates, qui sont bourrées de sucre, de colorants et de tout ce qu'on veut. Vous allez voir, les spaghettis, le riz, il n'y a rien. Enfin, tout, c'est des produits ultra transformés. Donc, vous voyez, ça nous pose des graves problèmes de santé et la jeunesse a... Alors qu'on a tout, il y a tout qui pousse. En tout cas, je parle du Togo. Il y a tout qui pousse. Et les gens viennent prendre ça, faire des crèmes, faire des tisanes, faire des trucs qu'on paye, je ne sais pas combien, alors qu'on a tout. Avec les moringas, avec beaucoup de choses, vous voyez. Et ça m'a choqué et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Il faut qu'on réapprenne, en fait, qu'on se réapproprie ce qui est dans nos pays, ce que notre terre nous donne. Et Africube, c'est juste une base culinaire. Après, tu mets ton ail, tu mets tout ce que tu veux. Voilà, et c'est juste ma petite pierre à l'édifice dans la sensibilisation au bien manger, parce qu'on peut bien manger et moins cher au pays, mais il faut qu'on soit sensibilisé et qu'on arrête de se faire avoir par les marketeurs, par les marketing de tous ces produits transformés qui nous arrivent droite-gauche. C'est très important.
Ouais, et donc ouais, ça rejoint exactement ce que tu disais. Finalement, c'est une question de santé publique. Hein. Là, clairement, c'est un gros problème en Afrique. Donc ouais, il faut partager. Ne serait-ce que bah finalement j'avais fait une vidéo également où j'avais parlé de toi, j'avais parlé également bah finalement du cube magie et de la dangerosité entre guillemets du cube. Donc voilà, il faut partager, c'est important de sensibiliser parce que de toute façon les personnes avant même de prendre une action, il faut qu'on ait l'information. C'est ça. Quand on n'a pas l'information, on peut pas agir. Donc la première étape c'est vraiment bah, finalement de sensibiliser, que ce soit d'abord les personnes qui sont autour de vous, vos mamans, vos frères et sœurs, parce que des fois ils ne savent. Et ensuite, voilà, faire passer le mot petit à petit, c'est que ça commence.